Voilà, chers amis, nous faisons bien de commencer notre conférence en rendant gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Dieu dans une nature une, un seul Dieu, en trois personnes. Ça a été le combat de toute la vie de Saint-Hilaire, vous savez, de défendre la divinité du Fils et partant aussi la divinité de l'Esprit-Saint, mais en son temps, la question n'était pas encore tellement d'actualité. J'aimerais commencer simplement en vous lisant un extrait du grand traité de Saint-Hilaire sur la Sainte Trinité. Je vous en reparlerai un peu. Aussi longtemps que le permet la vie que tu m'as donnée, Père Saint, Dieu Tout-Puissant, je veux te proclamer comme le Dieu éternel et comme l'éternel Père. Je n'aurai jamais le ridicule ni l'impiété de m'établir juge de ta toute-puissance et de tes mystères, de faire passer ma faible connaissance avant la notion vraie de ton infinité et la foi de ton éternité. Jamais je n'affirmerai donc que tu aies pu exister sans ta sagesse, ta vertu, ton Verbe, l'unique Dieu engendré, mon Seigneur Jésus-Christ. Et nous le verrons, Saint-Hilaire a cette humilité de l'intelligence, il essaye de scruter, spécialement à travers l'Écriture sainte, le mystère de la Sainte Trinité et du Fils engendré de toute éternité, mais en même temps il soumet l'intelligence trop faible au mystère qui l'enveloppe de toutes parts. Peut-être nous pouvons essayer de resituer d'abord le contexte de l'évangélisation de la Gaule. Vous le savez, dès le 1er siècle, la tradition nous le rapporte, l'évangile est arrivé dans notre Gaule. Vous connaissez les traditions des saintes Marie de la Mer, Marie-Madeleine, Lazare et Marthe, qui arrivent donc sur les côtes de Provence, et à partir de là, l'Évangile va s'étendre d'abord dès le 1er siècle dans tout le couloir rhodanien. Et on voit ensuite que l'extension du christianisme se fait tout d'abord dans l'Empire romain, dans tout ce qui est l'Asie mineure. Vous savez que le berceau de la foi, c'est bien sûr la Terre Sainte, mais le berceau de l'Église, c'est vraiment l'actuelle Turquie, l'Asie mineure, où il y a eu une quantité, une floraison de communautés dès le 1er siècle, et puis après ça a gagné encore. Il y a aussi d'autres pôles, il y avait Alexandrie, la Cyrénaïque, et les grandes villes de l'Empire romain, Antioche, qui est la première, vous vous en souvenez, c'est dans les Actes des Apôtres. Il y a aussi Carthage, bien sûr, et puis toutes les villes qu'avait évangélisé Saint Paul, l'Asie mineure, la Grèce, et puis bien sûr Rome, mais aussi toute une partie de l'Espagne au sud-est, et puis la Gaule, donc très rapidement sur la façade provençale. Et quand on regarde l'évolution du christianisme, par l'Espagne, il est monté vers le sud-ouest, qui est aujourd'hui chez nous l'Aquitaine, et jusqu'à Bordeaux, qui est une ville très ancienne, et puis, donc, vous l'avez dit, tout le couloir rhodanien, au temps de Saint-Hilaire, donc toute cette, on peut dire, un peu une grande partie du sud de la France est déjà chrétienne. Globalement, quand on dit avec chrétienne, ça ne veut pas dire qu'il y a 100% de chrétiens, bien sûr. Et puis aussi, peu à peu, ça commence à se diffuser plus au nord, donc avec des points, notamment la ville de Poitiers, et puis la ville de Tours, puis peu à peu, à partir de là, ça va rayonner. Et donc, au IVe siècle, au temps d'Hilaire, il y a donc Poitiers, qui est cette ville, je vais vous en reparler, très ancienne, romaine, et puis à partir de Poitiers, peu à peu, va s'étendre, avec Tours aussi, l'Évangile dans les campagnes, mais vous savez pour cela l'œuvre de Saint Martin, qui a un rapport avec Saint-Hilaire, comme vous le savez, puisqu'après sa conversion, il est venu à Poitiers, attiré par la réputation du Saint-Évêque de Poitiers, qui était Hilaire. Et Hilaire l'a envoyé à Libugé, pour ceux qui connaissent, un peu au sud de Poitiers, pour y fonder d'abord une vie érémitique, puis après pour y fonder une communauté. C'est le premier monastère d'Occident, à Libugé. Et puis plus tard, vous savez l'histoire avec Martin, qui a été kidnappé par les Tourangeaux, qui l'ont volé au Poitevin, et qui finalement en ont fait leur évêque, et il a évangélisé les campagnes. Donc l'évêché de Hilaire, au départ, c'est bien sûr Poitiers, toute la région qui est autour, la Vienne grosso modo actuelle, et puis évidemment aussi toute la partie des Deux-Sèvres, et ça s'étendait jusqu'à l'île de Noirmoutier inclus. Mais il ne faut pas penser que ces campagnes, jusque dans nos régions, étaient déjà totalement chrétiennes. Il a fallu du temps. Saint-Hilaire s'y a intéressé, nous allons voir comment. Voilà un peu ce qu'on peut situer globalement de ce contexte de l'arrivée de Saint-Hilaire comme évêque. On n'est pas très sûr, on a une liste d'évêques avant Hilaire à Poitiers. Mais on n'est pas tout à fait sûr historiquement, dans le sens où on n'a pas beaucoup de preuves historiques qu'il y ait eu des évêques avant. La tradition nous le rapporte, c'est possible, c'est probable même, mais rien n'est sûr. Le premier qui, historiquement, dont on est sûr, c'est Saint-Hilaire, qui arrive donc à Poitiers. Alors, parlons un peu d'abord de la vie de Saint-Hilaire. Et j'allais dire, nous ne savons pas grand-chose de cette vie. Sinon, au travers de son combat contre l'arianisme. Hilaire serait né probablement au début du IVe siècle, soit à Poitiers même, il y a une autre tradition qui le fait naître dans la région du Layon, vous le savez, où on fait du bon vin. Il serait, en tout cas, on pense qu'il aurait pu sortir d'un milieu païen, c'est le plus probable. Ce n'est pas tout à fait sûr. Saint Jérôme disait de lui qu'il était gaulois et né à Poitiers. La ville de Poitiers existait déjà du temps de Jules César. Elle fut assiégée par les Romains et reconstruite selon leur plan au 1er siècle. Au 3e siècle, elle est entourée d'une puissante muraille de fortifications. Et peu à peu, toute l'aristocratie de la ville s'était largement romanisée. Quand on, ceux qui connaissent Poitiers, il y en a parmi nous, n'est-ce pas? Il y a, quand on va à Poitiers, vous allez dans les caves de toutes les maisons de Poitiers, qui sont ce qu'on appelle sur le plateau, vous êtes sûr de tomber sur des vestiges romains. Il y en a absolument partout. Donc c'est vraiment une ville très ancienne. Hilaire naît sûrement dans une de ces riches familles de la ville, et il reçoit une solide éducation païenne latine. Pour ses études, il va même déjà dans la grande ville de Bordeaux, un peu plus au sud. D'ailleurs, pendant un temps, c'était Poitiers qui était la capitale de l'Aquitaine, c'est plus tard que Bordeaux qui est devenue cette capitale, ce qui était déjà le cas, je crois, du temps de Saint-Hilaire. Peu à peu, il entame un chemin de conversion. Il prend conscience de la vanité de la sagesse antique et est séduit par la révélation d'un Dieu infini et créateur. Je suis celui qui suit de la Bible. Vous vous souvenez, la révélation du nom de Dieu à Moïse au buisson ardent, Exode 3,14. Voilà ce que dit Hilaire de cette époque. « Mon esprit, lancé à la poursuite du vrai, se plaisait à méditer des pensées si élevées sur Dieu. En effet, rien d'autre ne me semblait digne de Dieu, si ce n'est d'affirmer qu'il dépasse les limites de l'intelligence humaine. Autant il est loisible à l'esprit humain de se déployer à l'infini en allant par sa pensée toujours au-delà, autant l'infinité de Dieu, qui possède une éternité sans bornes, dépasse-t-elle les capacités de l'intelligence qui le cherche. » Voyez, il est très conscient, tout d'un coup, de ce mystère du Dieu qui, comme je le vous disais, déborde largement les capacités de notre intelligence à l'embrasser, c'est-à-dire en saisir le tout. Vous voyez, comprendre, c'est saisir le tout. Et en fait, nous voyons bien les limites de notre intelligence de créature devant la splendeur, la magnificence, la grandeur de notre Créateur. Et nous pouvons savoir quelque chose, mais on ne peut pas tout en savoir. Saint Thomas dira plus tard, je peux savoir quelque chose avec certitude de Dieu, mais je ne peux pas tout en savoir. Hilaire décrit ensuite comment sa rencontre avec l'Évangile selon saint Jean, et spécialement le fameux prologue que vous connaissez, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Donc comment ce prologue l'avait fasciné. Comment le Verbe de Dieu, venu parmi nous, nous appelait à devenir fils de Dieu. Mon âme accueillit avec joie cet enseignement sur le mystère divin, dit-il. La chair lui permettait donc d'avancer vers Dieu, et la foi l'appelait à une nouvelle naissance. Il lui était possible de renaître d'en haut. Je connaissais maintenant quel soin mon Créateur et Père avait pris de moi, et je ne pensais plus devoir être réduit à néant par celui qui du néant m'avait appelé à l'être. Alors Saint-Hilaire, c'est toujours un peu compliqué. Par parenthèse, le latin de Saint-Hilaire est très difficile. Il y a un de mes professeurs qui disait, en italien, il disait, latino di Sant'Ilario è cinese, c'est du chinois. Et c'est vrai que c'est un latin très savant, très difficile. Là, il veut dire que, vous voyez, tant qu'il était païen, en fait, il ne voyait pas de perspective. La mort mettait une fin à tout, et voilà. Et donc, il allait vers son néant. Et donc, là, il comprend qu'il ne va pas être réduit à ce néant. Et il fait un jeu de mots magnifique en disant « par celui qui m'a tiré du néant, celui qui m'a sorti, en fait, de ce néant, qui m'a créé de rien, c'est lui qui va me donner de ne pas retourner dans le néant et de vivre avec lui, sous-entendu. » Plus avant, préoccupé de son salut, il fait ensuite une rencontre personnelle du Christ. Il s'inscrit comme catéchumène et c'est peu après qu'il accepte de devenir évêque de Poitiers, ce qui est environ vers 351. Vous savez, c'est difficile de savoir au mois près et encore moins au jour près, hein, mais on sait à peu près. Voilà ce qu'il dit. Ainsi, dans cette paix qui lui venait de se savoir en sécurité, mon âme se reposait donc avec joie dans ses espérances. Je craignais si peu l'intervention de la mort que je la considérais comme le chemin vers la vie éternelle. Loin de me paraître pénible et triste, la vie en ce corps me semblait être ce que sont les lettres de l'alphabet pour les enfants, le remède pour les malades, la nage pour les naufragés, l'éducation pour les adolescents, le métier des armes pour les futurs officiers. Bref, il fallait supporter ce qui arrivait aujourd'hui pour cheminer vers la récompense de la bienheureuse immortalité. De plus, en vertu du ministère sacerdotal qui m'avait été confié, je prêchais aussi aux autres ces vérités, objet de ma foi personnelle. J'élargissais ainsi ma tâche jusqu'à prendre en charge le salut de tous. Soucieux d'accompagner la communauté qui lui est confiée, il rédige à cette époque un commentaire sur l'Évangile selon saint Matthieu, que nous avons toujours. Sa réputation de sainteté se répand. Plus tard, je vous l'ai dit, à la fin de sa vie, quand il reviendra d'exil, le saint Martin le rejoint après sa conversion. Son vaste diocèse s'étend, je vous le disais, de tout l'actuel département de la Vienne jusqu'à Noirmoutier inclus. Les campagnes, qui ne connaissaient pas ou très peu le christianisme encore, le christianisme était d'abord urbain, vivent selon les rites païens ancestraux. Donc, vous avez le mot paysan vient de païen, hein, paganisme. Et on sait tout le travail que saint Martin entreprendra dans leur évangélisation. Il semble que saint Hilaire s'y intéressa également. D'ailleurs, on note dans le propre du diocèse, au dire de saint Fortunat, saint Venance Fortunat, c'était l'évêque de la Porte-Prête quand saint Radegonde est venu à Poitiers, donc à la fin du VIe siècle. Et saint Fortunat est venu après, c'est un prêtre italien, Venanzio Fortunato, qui était venu attiré par la réputation de sainteté de saint Radegonde. Il était donc le chapelain du monastère saint Radegonde, puis après il est devenu évêque de Poitiers. Et c'est lui qui a écrit des belles hymnes magnifiques comme le Vexilla Regis Pro Deunt et d'autres que nous chantons pendant la Semaine Sainte. Donc, au dire de saint Fortunat, Hilaire serait venu délivrer l'île de la Dive près de la pointe de l'Aiguillon des serpents qui l'infestaient. Il est probable que son action en Bas-Poitou ne se borna pas à ce miracle, et qu'il contribua activement à l'évangélisation de cette partie de son diocèse dont 9 paroisses portent son nom et 12 l'ont choisi comme patron. Voilà. Donc, en la partie éloignée de la ville épiscopale que constitue la Vendée d'aujourd'hui, on a retenu le nom d'un corévêque, une sorte d'évêque auxiliaire, semble-t-il. Je remercie d'ailleurs Jean-Claude qui nous donne plein de renseignements précieux. Donc, qui s'appelait Benoît Desnais, à qui Hilaire aurait confié l'évangélisation de cette partie du diocèse. Imaginez à l'époque, les transports n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, donc pour aller à Poitiers, il fallait un certain temps, à pied. Donc ce Benoît Desnais, sans doute, avait reçu en charge toute cette partie qui correspond plus ou moins à la Vendée d'aujourd'hui pour y annoncer le Seigneur Jésus et faire grandir la foi dans les cœurs. Un certain Vivant, V-E-N-T, un prêtre qui était venu s'installer près de ce Benoît Desnais, donc vécu longtemps ensuite à l'île de Lonne, où il acquit une grande réputation de sainteté, tout ça du temps de Saint-Hilaire. Et au retour d'exil de Saint-Hilaire, nous verrons après, Saint-Vivant demanda à celui-ci la permission de se retirer à un endroit qui s'appelait Gravion, aujourd'hui que certains connaissent sous le nom de Saint-Vincent du Graon, voilà. Où sa popularité attira les foules, ce qui l'obligeait à se réfugier par moments dans sa solitude de l'île de Lonne. Et il mourut là, à Gravion, ce fameux Vivant, Saint-Vivant. Au temps des invasions normandes, les moines du monastère qui s'élevaient auprès de son tombeau, Saint-Vivant, s'enfuirent vers l'Auvergne et emportèrent les reliques. Quant à Saint-Lienne, il y a un mot au passage. Quant à Saint-Lienne, en fait, c'était un prêtre qui était un proche, un peu, on peut dire le bras droit, si on veut, de Saint-Hilaire, qui était prêtre. Donc, et il fut même le compagnon d'exil de Saint-Hilaire quand il partit en exil. Mais Saint-Lienne ne vint pas en Vendée de son vivant. Ce n'est que vers 994 que le seigneur de La Roche-sur-Yon obtint ses reliques du chapitre de l'église Saint-Hilaire de Poitiers, justement, et les installa dans l'église de la Bourgade. Alors, il y a bien un lien avec Saint-Hilaire, effectivement, mais lui n'est pas venu dans notre région. Il faut dire ici un mot du contexte dans lequel Hilaire devint évêque, contexte religieux. Au début du IVe siècle, un prêtre d'Alexandrie d'Égypte qui s'appelait Arius avait commencé à faire circuler d'étranges idées sur la Sainte Trinité et surtout sur la divinité de Jésus. Il disait que Dieu le Père était plus grand que Dieu le Fils et s'appuyant en cela sur une phrase bien connue de Jésus, vous savez, « Le Père est plus grand que moi ». En fait, il voulait bien reconnaître que le Fils était Dieu, mais, comment dire, une sorte de Dieu inférieur. Et il disait comme ça, il avait cette affirmation, « Il fut un temps où le Fils n'était pas ». Ce qui est une autre façon de dire que le Fils avait été créé et donc n'existait pas de toute éternité, sans commencement ni fin, à l'égal du Père. Dire que le Fils commence d'exister à un moment, en fait, c'est nier qu'il soit vraiment Dieu, puisque Dieu est sans commencement ni fin, et c'est la définition même de l'éternité. En bref, donc, c'était nier la vraie divinité du Fils, qu'on appelle aussi le Verbe. Les évêques, et notamment le patriarche de l'époque qui s'appelait Alexandre d'Alexandrie, pas tombé dans le piège, ne l'entendaient pas ainsi et firent convoquer un concile général par l'empereur Constantin. C'est le concile donc de Nicée en 325. La doctrine d'Arius était condamnée et la foi catholique professée de manière intègre dans le credo que nous récitons toujours. Malheureusement, c'était sans compter sur le parti d'Arius, car il avait fait des disciples et en nombre. Et ces Ariens, comme on les appelle, se virent bientôt soutenus par le fils de Constantin, son successeur qui s'appelait Constance, qui lui-même donc devient Arien. Ils voulurent donc imposer à toute l'Église de Dieu cette croyance déviante contraire à la foi de Nicée. Beaucoup des évêques de l'Empire furent gagnés à l'hérésie, soit pour quelques-uns par conviction, soit pour d'autres par intérêt, parce que vous savez, les questions politiques et religieuses étaient mêlées, et pour être bien vu de l'empereur, etc., donc on ne venait à rien, ou soit encore par crainte pour les mêmes raisons. En Gaule, ce furent bientôt 90% des évêques qui adhérèrent à l'hérésie. Des conciles régionaux se succédèrent en Orient et en Occident, certains condamnant les partisans d'Arius, d'autres les soutenant. Vous imaginez la confusion du temps. C'est dans ce contexte troublé que Saint-Hilaire devint évêque. Donc 25 ans, vous voyez, après la fin, le concile. En Orient, le successeur d'Alexandre sur le siège d'Alexandrie fut le jeune diacre qui l'avait accompagné au concile de Nicée en 325. Vous en connaissez le nom, il s'appelle Athanase. Et Athanase, devenu évêque, fut un ardent défenseur de la foi de Nicée. Ce qui lui valut d'être exilé 5 fois, renvoyé de son siège 5 fois, notamment une fois en Occident, à Trèves, en Allemagne actuelle. Pour revenir à Saint-Hilaire, il avouera dans un écrit qu'il a fait justement sur les décinodices, pour expliquer tous ces synodes et conciles qui avaient lieu dans cette affaire, qu'il n'avait connu que tardivement la profession de foi de Nicée, mais disait-il que c'était la foi qu'il avait toujours professée. Constance, l'empereur, multiplie les conciles en Occident et fait condamner Athanase. Ceux qui s'opposent à ses vues sont exilés, tels par exemple Paulin, saint Paulin de Trèves, saint Eusèbe de Verceil, Denis de Milan. Hilaire, quant à lui, toujours plein d'enthousiasme et d'initiative, réunit un synode à Paris à la fin de 355 pour soutenir saint Athanase. Saturnin d'Arles, qui était un défenseur des idées ariennes, réplique par un synode à Béziers, où l'évêque de Poitiers est convoqué. Hilaire ne s'y rend pas et refuse de condamner Athanase. Il s'oppose à Saturnin et aux évêques philo-ariens, ceux qui étaient proches des Ariens, et ce qui lui vaut, à son tour, d'être condamné par Constance et exilé en Phrygie. La Phrygie, c'est une des provinces de l'Asie mineure, la Turquie actuelle. Cet exil est un moment fondamental de sa formation culturelle et doctrinale. Il entre en contact avec les auteurs grecs, notamment Origène, et la spiritualité inspirée de la philosophie platonicienne. C'est important parce qu'Origène, sur la question de la Sainte Trinité, était un des premiers à avoir formulé pour, en grec, en Orient, cette question, une nature, et trois personnes, mais avec des termes qui vont poser difficulté au latin. Mais en tout cas, il connaît donc cette pensée d'Origène qu'il découvre, et ça c'est un peu une originalité chez les pères latins. Augustin, par exemple, connaissait un peu le grec, lisait, mais Saint-Hilaire est sûrement un des pères latins qui a le mieux connu la pensée grecque, qui donne cette richesse de sa pensée, et c'est de la profondeur aussi de sa pensée. Il continue de diriger son diocèse malgré l'éloignement et communique avec son clergé par lettres. Et surtout en exil, il rédige son ouvrage fondamental, le fameux De Trinitate, sur la Trinité. Il écrit aussi un autre ouvrage qui s'appelle le De Synodis, qui explique aux Occidentaux les différentes professions de foi des Orientaux et les nombreux synodes où elles sont confirmées ou condamné. Le caractère bienveillant d'Hilaire, son caractère bienveillant et paisible, lui permet de dialoguer avec tous, y compris avec ses adversaires. Dans un passage d'un autre livre qui s'appelle « Contre Constance », il dit comme ça « Or, je vous parle de ce que j'ai personnellement entendu lire en public à l'Assemblée, la relation, paraît-il, d'un évêque d'Antioche. » Ce qui montre bien qu'il fréquente les assemblées de ceux dont il ne partage pas toujours la foi, puisqu'il critique ensuite ce qui a été lu dans ces assemblées. Ceci ne l'empêche pas d'avoir un jugement ferme sur ses confrères qui renient la vraie foi. Il en parle souvent, par exemple, dans le De Synodis, comme ces hommes mêmes, des évêques de cour plutôt que des évêques de l'Église. Je disais, hein, parce que souvent, s'ils étaient à rien pour un certain nombre, certains n'étaient pas vraiment par conviction, mais un certain nombre, c'est qu'ils voulaient s'attirer les bonnes grâces de l'empereur. En réalité, hélas pour vous et pour moi aussi, la situation théologique est plus complexe que ce que nous en avons déjà dit. Alors, je vais essayer d'être clair, mais c'est pas facile. Entre le parti fidèle à Nicée, ceux qui sont d'accord avec le symbole de Nicée, et puis ceux qui sont d'accord avec Arius, il y a des intermédiaires. Alors, ceux qui sont d'accord avec Nicée, on les appelle les homoousiens. Ouf, c'est que c'est bête. Parce que le mot principal important dans le credo de Nicée, justement, qui disait toute cette foi en le Verbe, le Fils, vraiment Dieu à l'égal du Père et partageant avec lui une même nature divine, ce mot c'est homo ousios. Ousios ça veut dire la substance. Homo, vous savez, ça veut dire le même. Donc on disait le Verbe est de même substance, le Fils est de même substance que le Père. Ça veut dire qu'il partage la même et unique nature divine. Ça va? Donc ça s'appelle les homoousios. Donc on les appelle les homoousiens, hein, ou les nicéens, si on disait comme ça. Ok? De l'autre côté, tout à l'autre bout, il y a donc les Ariens. Les Ariens portent un autre nom. On les appelle les Anoméens. Anomoios, ça veut dire que le Fils, ça veut dire dissemblable au Père. C'est ce qu'il dit. Le Fils est dissemblable. Ça va? Entre les deux, vous avez là les Nicéens, là les Ariens, et entre les deux, il y a eu des tentatives de conciliation en employant des mots donc qui étaient approchants ou dérivés. Alors, côté Arien, il y avait ce qu'on appelait les homoïens. Alors, homoios, ça veut dire être semblable. Ceux qui disaient, de manière générale, le Fils est semblable au Père. Oui, mais ça, c'est pas suffisant, les amis. Nous sommes semblables quand nous sommes des êtres humains, mais nous ne formons pas un. Non? Eh oui. Et puis, plus près de ceux qui sont fidèles à Nicée, il y a ceux qui disent pas tout à fait ils sont de la même substance, mais ils disent homoiousiens, ils disent d'une substance semblable. Petite subtilité. C'est pas de la même substance, mais d'une substance semblable. Ils se ressemblent, quoi. Je caricature un peu. Voyez l'idée. Donc, du coup, au lieu d'avoir deux parties, on en a quatre. Alors, ça crée quand même beaucoup, beaucoup de confusion. Et donc, des mélanges, des synodes. Alors, s'il fallait faire, on pourrait faire pendant un an un cours sur le 4e siècle et tous les synodes, les conciles qui ont eu lieu des uns, des autres, condamnant, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, j'essaye d'être le plus simple possible. Bien, ça va, vous situez à peu près? Alors, Hilaire, lui, bien sûr, il est favorable à la foi de Nicée. Mais il y a une chose intéressante, c'est que dans son grand De Trinitate, c'est un ouvrage assez long, 12 livres, enfin quand on dit livre, c'est des chapitres, mais des chapitres assez consistants. Dans son ouvrage assez long, il n'emploie jamais le mot homoousios. C'est curieux, parce qu'il est très fidèle à cette foi de Nicée. Jamais il ne l'emploie. Mais souvenez-vous, ce qui a touché saint Hilaire dans sa conversion, c'est quoi? C'est la lecture de l'Écriture sainte. Et donc il argumente à partir de l'Écriture sainte. Et il se refuse, quelque part, d'argumenter à partir de l'homoousios, même s'il n'ignore pas le mot, et même qu'il l'explique dans d'autres écrits aux Occidentaux. Mais il rencontre aussi ce qu'on appelle les homéousiens, c'est-à-dire ceux-là qui sont plus proches des partisans de Nicée, de la foi catholique, mais qui sont un peu en marche, on peut dire, enfin un peu limite. Et il s'en rapproche pour essayer de les comprendre. Et ces homéousiens, ils étaient assez nombreux en Asie mineure. Et donc, en dialoguant avec eux, saint Hilaire en retire la conviction qu'il faut se défier non seulement de l'arianisme, ça c'est une chose, mais aussi, alors je vais vous dire le mot savant, puis je vous explique après, n'ayez pas peur, donc du sabellianisme monarchianiste, vers lequel penchait un peu l'Occident. Alors, c'est quoi? C'est qu'en Occident, les Occidentaux en général, depuis les origines, ont tenu à défendre fermement l'unité de Dieu, le Dieu unique. Toute chose bonne, bien sûr. Sûrement influencé plus par là, par les courants, ce qu'on appelait judéo-chrétiens, qui étaient ces courants issus du judaïsme, c'est-à-dire pas des païens convertis, mais du coup qui avaient cette sensibilité propre de défendre la pureté de l'unité divine. Vous voyez? Et ce qui évidemment est très juste, et qui pour nous est tout à fait légitime et nécessaire. Donc du coup, les Occidentaux, eux, étaient assez, on peut dire, orientés vers cette unité divine. Ils partaient de l'unité divine pour aller vers les personnes divines, vous voyez? Et en Orient, on a fait un peu le contraire. Partent plutôt des trois personnes pour essayer de montrer comment elles sont une. Vous voyez? C'est une manière d'aborder le mystère. Ça ne veut pas dire que c'est bien d'un côté et mal de l'autre, mais c'est une approche différente. Et donc, les Occidentaux, eux, sont assez partisans de défendre avec vigueur ce qu'on appelle le principe du Dieu unique. Monarchianisme, ça veut dire ça, monos, un seul arché, un seul principe, un seul Dieu. Vous voyez? Chose très bonne, évidemment. Et du coup, il y a eu des tentatives, mais c'est avant Hilaire, au 3e siècle, notamment c'est un Paul de Samosate qui avait été condamné donc dans un concile à Antioche, qui en fait disait que les personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont des manières pour Dieu de se présenter à nous. Le Père dans l'Ancien Testament, le Fils dans le Nouveau Testament et aujourd'hui le Saint-Esprit. Mais en réalité, disaient ces gens, c'est que le Père est égal au Fils, c'est le même, le Fils est égal au Saint-Esprit, qui est égal au Père, en fait, il n'y a qu'une personne. Et ça, c'est une hérésie, parce que le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père, et le Saint-Esprit n'est pas le Père, et n'est pas le Fils, vous voyez? Et donc, ce qu'on appelle le modalisme, pourquoi? Parce que c'est une manière de se présenter, Dieu se présente sous le mode du Père, ou le mode du Fils, ou le mode du Saint-Esprit. Et cette hérésie avait été condamnée déjà dès le IIIe siècle. Ça va? Parce que je suis conscient que c'est un peu technique, mais je suis obligé de... Voilà. Et donc, ces gens, on les appelait les modalistes, mais on les appelle aussi les sabellianistes, parce qu'il y avait un certain Sabellius qui était aussi un des leaders de ce mouvement, et donc qui était modaliste. Voilà, et donc l'hérésie a pris son nom comme l'arianisme. Voilà, sabellianisme, c'est la même chose. Donc, je reviens à Hilaire. Vous voyez, en parlant avec les homéoutiens, en fait, il prend conscience qu'il faut se défier donc de l'arianisme d'une part, mais aussi du sabellianisme monarchianiste, c'est-à-dire de ceux qui, en fait, ne distinguent pas vraiment les trois personnes. Il savait bien que les Occidentaux donc voulaient défendre coûte que coûte le principe de l'unité divine, ce qui est bien encore une fois, mais ils risquaient de ce fait aussi de ne pas bien distinguer les trois personnes. Et là, Saint-Hilaire, dire à l'école des Grecs, il entre mieux dans ce mystère. Ça l'aide à mieux réfléchir à cette vraie distinction du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout en maintenant, évidemment, le principe du Dieu unique, qu'il ne s'agit pas de lâcher. Et puis, il s'aperçoit aussi que le terme « homoousios », vous en ai parlé, qui est dans le credo de Nicée, est en fait, en Occident, un peu suspect. Parce que, justement, en Occident, on se dit « la même substance », ça veut dire que... il est suspect en Orient, excusez-moi, parce que la même substance, ça voudrait dire qu'en fait, il n'y a pas de vraie distinction des personnes. Donc vous voyez, il voit un peu les limites de chacun. Il voit les forces de la pensée des Occidentaux, celles des Orientaux, mais il voit aussi les limites de la pensée des Occidentaux et les limites de la pensée des Orientaux. Et donc du coup, ça lui permet de faire une belle synthèse. Il est assez ouvert à la solution homéoutienne. Voilà. Mais avec les partisans de cette dernière, il participe à un concile, qui s'appelle le concile de Séleucie, en septembre 359. Sa présence surprend à ce concile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est déposé de son siège, il est exilé. Donc qu'est-ce qu'il fait là, à venir à ce concile ? Il n'est pas légitime. Mais il est relativement libre de ses mouvements, contrairement à d'autres exilés comme lui. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Eusèbe de Verceil, mais je vous parlais aussi plus avant d'un certain Lucifer de Cagliari. Ça ne s'invente pas, le nom. Et il est saint. Alors, des représentants donc homéoutiens et ariens se rendent ensuite chez l'empereur Constance. Et il va avec eux, il les accompagne. Et il apprend à cette occasion, Hilaire, que les évêques d'Occident, pendant son absence, qui avaient été réunis à Rimini, ont cédé à la pression de l'empereur et ont signé une formule de foi favorable aux Ariens. Alors il demande à être confronté à Saturnin d'Arles. Vous vous souvenez, Saturnin d'Arles, c'était son adversaire qui l'a fait exiler. Mais sans succès. En revanche, comme on voit qu'il dérange un peu, puis que c'est un homme brillant et qu'il risque de mettre le bazar, alors il est autorisé à rentrer en Gaule sans qu'on lui demande de souscrire à une formule pro-arienne, favorable aux Ariens. Et il rentre donc en Gaule. Et d'ailleurs, il va être reçu de manière triomphale partout en Gaule, et spécialement dans son diocèse de Poitiers. Il n'était pas censé, même s'il repartait en Gaule, reprendre son siège de Poitiers. Mais, entre-temps, l'Occident était passé sous la domination d'un nouvel empereur qui s'appelait Julien. Mais, vous savez, on le connaît sous le nom de Julien l'Apostat. Et donc, c'est en fait une parenthèse dans les empereurs, parce que depuis Constantin, ils ont toujours été chrétiens, sauf celui-ci, qui en fait renie la foi chrétienne, enfin ne veut pas en entendre parler, et revient au paganisme. Donc, lui, Julien, les affaires des chrétiens, leurs disputes théologiques, il s'en fiche pas mal, Et du coup, il laisse faire, et donc il laisse Hilaire rentrer dans son diocèse et reprendre possession de son siège. Mais en Occident, même si beaucoup d'évêques étaient ariens, les partisans de la foi de Nicée étaient plus nombreux. Et ils en profitent pour se soulever, et donc ils accueillent triomphalement Hilaire, je vous le disais, dans son diocèse, mais plus largement, et Hilaire, du coup, surfe sur la vague, si je puis dire, et s'empresse de réunir un concile à Paris en 361. La ligne qu'il définit dans ce concile est modérée, de sorte que ceux qui sont nicéens, favorables à la foi catholique depuis toujours, et ceux qui sont homéoutiens, vous savez, ceux qui étaient tout proches, là, d'eux, peuvent s'y retrouver. Seuls les chefs de file des Ariens sont condamnés. Saturnin d'Arles, lui, et puis il y avait aussi un certain Paterne de Périgueux. Les évêques qui ont signé la formule de Rimini, vous savez, sous la pression dans ce concile, au moment où il était absent, sont excusés d'avoir subi une pression extérieure. En cela, vous voyez, Hilaire montre une grande indulgence, une grande bonté, et qui permet aussi de réconcilier. Et donc il a vraiment un rôle d'unité, d'union, en favorisant l'union qui est très important. Mais cette grande indulgence va lui être reprochée, évidemment il y a toujours les ultras, par un autre vaillant défenseur de la foi de Nicée, qui pourtant est saint, et je vous en parlais tout à l'heure, c'est le fameux saint Lucifer de Cagliari. Je ne connais pas beaucoup d'enfants qui s'appellent Lucifer, mais oui, ils auraient un bon patron. La Gaule retrouve l'unité de la foi orthodoxe. Alors quand on dit orthodoxe, c'est-à-dire droite, fidèle à la tradition, et est donnée, parce qu'il n'y a pas encore de l'orthodoxie, c'est beaucoup plus tard, c'est en 1054 le schisme. Donc là, il ne s'agit pas de l'orthodoxie au sens où on l'entend maintenant. Et la Gaule est donnée en exemple pour son équilibre et sa modération. En 364, Saint-Hilaire est à Milan pour tenter, avec Saint-Eusèbe de Verceil, j'en avais parlé aussi, qui avait été exilé, de convertir ou évincer Auxence, qui était l'évêque arien de la ville. Il échoue, mais pas complètement, parce qu'il a prêché Hilaire à Milan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Auxence est mort, qui a eu un successeur, qui a été élu? Un certain Ambroise, en 374. Et donc on peut penser, je taquine comme ça un ami prêtre du diocèse de Milan, et voilà, qui me dit que c'était une bonne fête de Saint-Hilaire. Un jour, je lui dis, bah oui, c'est grâce à nous que vous êtes encore catholique, donc je te remercie. Donc voilà. Oui, alors tout ça, en tout cas, pour dire la bonne influence probable, on peut imaginer, qu'il y a eu Saint-Hilaire dans cette affaire. Saint-Hilaire rejoint son diocèse, et finalement, il va passer la fin de sa vie plus tranquille, où il va pouvoir vraiment s'occuper de son diocèse plus avant, enfin en tout cas plus directement. Il n'a jamais laissé tomber, il faisait de loin, il faisait ce qu'il pouvait. Et il consacre son temps à écrire, on a d'autres écrits de lui à ce moment-là, commentaires sur les psaumes par exemple. Et il passe son temps à écrire et il administre son diocèse dans la paix. On suppose qu'il meurt, on ne sait pas exactement si c'est en 367 ou en 368, mais peu importe, dans ces eaux-là. Voilà, je vous ai déjà, j'étais trop long bien sûr comme d'habitude, mais je vous parlais un peu de sa théologie, mais je vais abréger parce que je vous en ai déjà pas mal parlé. On lit sur l'écriteau, si vous êtes peut-être déjà allé à l'église Saint-Hilaire de Poitiers, on lit sur l'écriteau qui est près des reliques, on lit ceci, « J'ai dit ce que j'ai cru ». C'est une phrase de Saint-Hilaire, mais « J'ai dit ce que j'ai cru ». Saint-Hilaire, c'est un homme de foi, un lettré, comme je vous l'ai dit, qui écrit dans un latin savant. Il est sûrement un des pères latins les plus profonds et originaux par sa pensée. Je ne résiste pas à la tentation de dire ce que disait un de mes maîtres, Père Orbé, qui est le spécialiste mondial de Saint-Irénée et de la Gnose, qui disait comme ça, il dit ça dans un livre même. On ne peut pas tout connaître des pères de l'Église, que c'est un monde immense, extrêmement vaste. Rien que Saint-Augustin tout seul, vous pouvez passer toute votre vie à lire Saint-Augustin. Il dit, on ne peut pas tout connaître. Il y a évidemment les grands incontournables. Il dit, Saint-Augustin fait partie, évidemment, des grands incontournables. Et il ajoutait, mais le plus grand de tous, c'est Saint-Hilaire. À cause, non pas de l'importance quantitative de son œuvre, Saint-Augustin est beaucoup plus important, mais encore que Saint-Hilaire, c'est pas rien, même chez les pères. Mais puis il y a des œuvres de perdus aussi, mais comme presque pour tous les pères. Mais surtout pour la profondeur et la richesse de sa pensée. Il avait vraiment une profondeur, et lié à tout ce que je vous ai expliqué, cet enrichissement qu'il a eu dans sa pensée, dans sa latine, de tout cet apport des Grecs. Le cardinal Pi, grand évêque de Poitiers du XIXe siècle, cardinal Pi obtint qu'il fût élevé au rang de docteur de l'Église par le bienheureux pape Pie IX en 1851. Et on le considère parfois, on répète, c'est un des titres d'Hilaire, c'est le Athanase de l'Occident. Voilà, il est un peu postérieur à Athanase. Ou à moins qu'Athanase soit le Hilaire de l'Orient, mais ceci dit, ça marche moins bien parce que Athanase est plus ancien. Voilà, je passe sur sa théologie. Voilà. J'ai combien de temps, monsieur? 5 minutes. Bon, alors, donc je vais à la conclusion directement. Saint-Hilaire rapportait à l'humanité de Jésus les passages invoqués par les Ariens pour montrer l'infériorité du Fils. Vous vous souvenez, les Ariens, ils s'appuyaient, disaient « Le Père est plus grand que moi ». Alors Hilaire dit « Ben oui, très bien ». Mais ça, Jésus le dit en tant qu'il est homme, et c'est très juste. Et lui, Hilaire, il commente aussi un autre passage, une autre phrase de Jésus dans Saint Jean, « Le Père et moi, nous sommes un ». Et là, il reprend une argumentation de penseurs plus anciens, de Tertullien, qui est la fin du IIe siècle, début du IIIe, et de Novatien, qui est du IIIe siècle, et il dit « Le Père et le Fils sont unum », c'est un neutre, c'est pas unus, c'est pas un masculin, sont unum, un seul être, si vous voulez, un seul être, il dit, contrarius, et pas seulement d'une union de volonté, mais une union de nature, c'est un seul être, un seul Dieu, qui est Père et Fils, et aussi Saint-Esprit, bien sûr. Mais en même temps, quand Jésus dit « Nous sommes le sumus », ça montre la distinction des personnes, et ça contre les Sabelliens, qui eux disaient « Oui, mais c'est que des modes d'apparence ». Ah, il tient les deux. Et vous voyez, la foi chrétienne, catholique, c'est toujours de tenir un équilibre difficile. On est toujours sur la ligne de crête. On risque de pencher d'un côté ou de l'autre. Mais si on penche d'un côté ou de l'autre, eh bien, on tombe dans l'hérésie. Alors, c'est difficile. Il faut tout tenir d'un coup. Et pour notre intelligence, on a du mal à tout tenir d'un coup. Mais justement, toute la réflexion, c'est ça, c'est d'avancer. Et puis aussi, son séjour en Orient lui a également permis de saisir que le terme qu'employaient les Orientaux, l'hypostase, hypostasis, qui s'applique aux personnes, en fait, c'est en latin persona, mais en fait, il y avait un problème de traduction. Peut-être que je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va mener trop loin et puis je ne vais pas avoir le temps. Bon. Juste un mot pour dire. À la fin de son ouvrage majeur, il parle aussi un peu de l'Esprit Saint. Parce que vous pouvez quand même dire, mais c'est bien, il parle du Père, il parle du Fils, mais l'Esprit Saint là-dedans, c'est quoi? Alors en fait, c'est une question qui n'était pas tellement soulevée de son temps. Donc lui, il dit... Il en parle parce que les débats commencent à se faire jour. À la fin de la vie de Saint-Hilaire, la question de l'arianisme rebondit sur l'Esprit-Saint. Certains disent, d'accord, le Père est Dieu. Ok, le Fils est Dieu. Ok, mais le Saint-Esprit, lui, et hop, c'est reparti pour un tour. Et c'est ce qui nous a valu le concile de Constantinople, parce que vous vous souvenez que le credo, c'est de Nicée-Constantinople, et qui a ajouté toute la fin du credo, parce que au concile de Nicée, le credo s'arrêtait « Je crois en l'Esprit Saint ». Point. Tout le reste, c'est le concile de Constantinople. Après, c'est une autre histoire, que je ne vous raconte pas, qui est celle des pères cappadociens, on appelle ça, vous connaissez Saint Basile le Grand, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice, et c'est eux qui ont, disons, prêché, lutté pour défendre la vraie divinité de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, Hilaire évoque cette question qui commence à se poser à la fin de sa vie. Lui, il croit à la divinité de l'esprit, mais voilà, il ne va pas plus avant, et donc il faudra donc ces autres développements et ce nouveau concile pour venir à bout de cette crise. On a pu voir que saint Hilaire fut un pasteur attentif à transmettre la foi catholique, d'une intelligence très affûtée, connaissant la pensée grecque comme peu de théologiens latins de son temps. Il demeurera une référence occidentale incontournable en matière de théologie trinitaire. Mais c'est aussi sa rectitude morale et spirituelle qui en fait un exemple. Il y a une très belle antienne des deuxièmes vêpres du propre du diocèse de Poitiers et qui sont tirées d'un texte de Saint-Hilaire. Je vous le dis d'abord en latin parce que c'est trop beau en latin et après je vous le dis en français. Il dit comme ça. « Melius mici in obsecullo mori, quam aliquius potentia dominante, castam veritatis corrumpere virginitate. » Alors, qui veut dire ? Il est mieux pour moi, dans ce monde, de mourir, que, quelle que soit l'influence d'une puissance, quelle qu'elle puisse être, je pense évidemment à l'empereur, de corrompre la chaste virginité de la vérité. Mieux vaut pour moi mourir que de corrompre la chaste virginité de la vérité. Pas beau ça? Bon, en latin c'est pas plus beau, mais oui, ce qui est difficile avec Hilaire, c'est qu'il renvoie les mots qui s'accordent les uns avec les autres à chaque bout de la phrase, alors c'est un peu compliqué. Alors que pouvons-nous donc recueillir, nous catholiques du XXIe siècle, de cet exposé sur saint Hilaire? Dans une époque troublée, le grand évêque de Poitiers a su garder le cap d'une foi solide, étayée par la raison. En cela, il demeure très moderne, puisque l'exigence est toujours la même, recevoir d'une part le bon dépôt de la foi transmis par nos aïeux depuis les apôtres, et s'efforcer d'autre part de toujours approfondir cette foi dans la formation d'une vraie intelligence de la foi qui s'ouvre à la grâce pour accéder à la lumière. Entre fidéisme, c'est-à-dire je crois parce que je crois, et rationalisme, c'est-à-dire je veux tout mettre sous la lumière de ma petite intelligence, Hilaire est un guide sûr et un exemple éloquent pour que nous ne nous laissions pas impressionner par l'agnosticisme contemporain, pas plus que par une réponse crédule à celui-ci, et que nous voyons parfois chez certains de nos concitoyens tentés par le merveilleux, alors qu'il peut prendre alors toutes les formes possibles et imaginables, et qui est un refuge facile aussi parfois d'une certaine paresse spirituelle et intellectuelle. Donc, chers amis, il faut former sa foi. C'est incontournable dans notre monde. Voilà. Chacun à son niveau, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il peut. Mais c'est important. Lisez pour former votre foi. Bien. Deux. Avec sa foi solide, Hilaire nous montre une espérance invincible. L'exil forcé n'a pas entamé sa détermination. La souffrance et de la séparation avec son diocèse et toutes ses attaches naturelles poitevines n'a pas réussi à fragiliser son amour absolu pour le Christ, bien au contraire. En outre, il ne s'est pas découragé devant l'ampleur démesurée de la tâche quand il s'agit de convaincre la plupart de ses confrères évêques gaulois qu'il faisait fausse route, en soutenant l'hérésie arienne. Il se confia à Dieu plutôt qu'à ses propres forces, car il était convaincu que cette entreprise de défense de la vérité n'était pas la sienne, mais celle de Dieu lui-même, dont il n'était qu'un humble instrument. Dans notre société qui semble si loin de Dieu et semble éloignée de plus en plus, une des grandes tentations est celle de la désespérance. C'est une grande tentation qui nous guette. Il est bon de voir que d'autres temps de l'histoire de l'Église ont été marqués par un éclatement de la doctrine, des errements moraux qui menaçaient les fondements mêmes de notre foi. La vérité n'a besoin de personne pour s'affirmer et finir par s'imposer d'elle-même. C'est une des grandes idées du bienheureux cardinal Newman. Dieu ne demande que notre fidélité, chacun pour sa part et à sa place. La victoire est déjà acquise par Jésus dans sa croix et sa résurrection. Et troisièmement, à sa foi solide et son espérance invincible, saint Hilaire sut allier une charité sans faille. C'est d'abord un amour passionné pour le Seigneur qu'il découvrit dans sa quête de vérité en scrutant les saintes Écritures. Il eut toujours ce feu des jeunes convertis. Cet amour de Dieu se manifestait dans l'amour du prochain, tant de ses diocésains, à qui il écrivait depuis son lointain exil dans le souci paternel qu'il leur portait, que de ses adversaires mêmes qu'il respectait par une bienveillance affichée, qui se souciait de comprendre avant de juger, et par le désir du salut de leur âme menacée par les ténèbres de l'hérésie et de la doctrine frelatée. L'évêque de Poitiers fut véritablement un homme de paix, ce qui ne rime pas avec homme de compromis. Saint Augustin dira plus tard « Veritas in caritate, caritas in veritate », la vérité dans la charité dans la vérité. Et ceci demeure un enjeu pour nous de tenir à la fois l'intégralité de la foi de nos pères et la charité envers tous. La charité ne peut pas prendre prétexte de l'ouverture aux autres pour se ranger aux opinions du monde en vigueur. Et Saint-Hilaire est bien placé pour le savoir. Et en même temps, la vérité est inaudible pour les cœurs qui n'ont pas d'abord été ouverts par l'amour et la confiance. Peut-être connaissez-vous le magnifique baptistère Saint-Jean de la ville de Poitiers, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est qu'est le plus vieux monument chrétien de cette partie dans notre ouest, là. Il contient encore les restes de la piscine baptismale du IVe siècle, celle de Saint-Hilaire, donc. Une partie des murs date des VIe et VIIe, un agrandissement du Xe. Délaissé et menaçant ruine après le Moyen-Âge, il fut sauvé une première fois par un homme hors du commun qui voulait conserver cette antiquité en raison des liens visibles qu'elle constituait avec nos racines. Vous savez qui ? Quelqu'un sait ? Un certain Louis-Marie de Montfort ? Eh oui. Alors à Poitiers, il entreprit quelques travaux pour le sauver. Menacé de nouveau au XIXe, il fut définitivement considéré pour sa juste valeur. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il est bon de voir dans cette anecdote comment les saints respirent à plein poumon l'air toujours nouveau porté par la tradition. De Saint-Hilaire à Saint-Louis-Marie, c'est une seule et même foi qui s'est transmise dans des contextes si différents. Fondée dans un même baptême, elle s'épanouit aux âges divers de l'humanité comme un arbre portant des fruits toujours nouveaux et savoureux. Le sauvetage réel de cette piscine baptismale de Saint-Hilaire par un autre grand saint a une portée symbolique en montrant que rien ne pourra jamais arrêter les eaux vives de la grâce que le Christ est venu répandre sur le monde et dans les cœurs. C'est un peu une introduction aussi à la conférence de la semaine prochaine. Alors je laisse Saint-Hilaire conclure, c'est vrai cette fois, avec la prière qu'il compose à la fin de son fameux traité du De Trinitate. Pour moi, je penserai comme ces hommes que tu as choisis. Avec eux, je ne dirai rien sur ton Fils unique qui déborde les capacités de mon intelligence et je me contenterai de dire qu'il est né. De même, avec eux, je n'avancerai rien sur ton Esprit Saint qui dépasse les ressources de l'esprit humain et je déclarerai uniquement qu'il est ton Esprit. Ne discutons plus. La confession ferme d'une foi qui n'hésite plus me suffit. Je t'en prie, conserve intacte la ferveur de ma foi et jusqu'à mon dernier souffle, donne-moi de conformer ma voix à ma conviction profonde. Oui, que je garde toujours ce que j'ai affirmé dans le symbole de ma nouvelle naissance lorsque j'ai été baptisé dans le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Accorde-moi de t'adorer, toi notre Père et ton Fils qui avec toi est un seul Dieu. Fais que j'obtienne ton Esprit Saint qui procède de toi par ton Fils unique. Ma foi a pour elle un excellent témoin, celui qui déclare « Père, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Ce témoin, c'est mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est toujours Dieu, en toi, de toi et avec toi, lui qui est béni dans les siècles des siècles. Amen.